Bonjour Victoria, bon début de semaine, bienvenue dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien à l'antenne de CILS FM 107,9. Merci de votre écoute pour cette édition des lundi 15 et mardi 16 mai. Vos revues de presse débutent dans un instant. Bonne émission à tous. Vous écoutez l'émission Le Débrief, mon nom est Alexis Gagnon. Voici votre revue de presse internationale pour les lundis 15 mai et mardi 16 mai. On débute en France avec une nouvelle qui fait le tour de la planète, nomination du nouveau Premier ministre par le président Emmanuel Macron. Il s'agit d'Édouard Philippe. Je vous lis quelques lignes de l'article paraissant dans le portail Mediapart.fr. C'est sous la plume de la journaliste Hélène Salvi. Ça s'intitule « L'hémisphère droit de Macron ». À 46 ans, le député et maire LR du Havre est nommé à Matignon. Un joli coup politique pour Emmanuel Macron qui s'offre le luxe de déstabiliser la droite tout en faisant tandem avec un élu d'allégeance Juppé au profil atypique. C'est une nomination à l'image de ce que fut cette campagne présidentielle « improbable », écrit la journaliste Hélène Salvi. On en parlait comme du choix le plus rationnel pour Emmanuel Macron, le plus tactique aussi. Après des heures de discussion, de silence et de supputation, ce choix a finalement été confirmé lundi 15 mai. À 46 ans, Édouard Philippe, le député maire Les Républicains du Havre, en Seine-Maritime, devient l'un des plus jeunes premiers ministres de la Ve République. L'entrée de ce proche d'Alain Juppé à Matignon est sans conteste un joli coup politique de la part d'Emmanuel Macron, écrit Mediapart. En nommant un élu méconnu du grand public, le président Macron esquisse une réponse à sa promesse maintes fois formulée de renouvellement. Surtout, il réussit à déstabiliser davantage une droite déjà en difficulté depuis le fiasco François Fillon. Si les ténors du parti Les Républicains, de François Baroin à Christian Jacob, se relaient déjà pour dénoncer ce qu'ils qualifient de débauchage, de prise d'otage et d'aventure individuelle, tous savent que le coup peut être fatal à leur famille politique. En Grande-Bretagne maintenant, Jeremy Corbyn part en campagne avec un coup de barre à gauche, c'est toujours dans le portail Mediapart.fr. Le parti travailliste, le Labour si vous préférez, veut renationaliser les chemins de fer et la poste et supprimer les frais d'université. Pour ses adversaires, son positionnement très à gauche rappelle celui de Michael Foot en 1983, qui avait encaissé le plus mauvais score du parti depuis 1945. Le parallèle est-il pertinent, demande le journaliste Ludovic Lamant dans le portail Mediapart. En France, le PS français est menacé d'implosion après sa lourde défaite présidentielle. En Espagne, les socialistes du PSOE s'entre-déchirent à l'approche d'une primaire censée désigner leur nouveau leader, dimanche 21 mai. Au Royaume-Uni, le Labour de Jeremy Corbyn, un autre parti paquebot de la social-démocratie européenne, est lui aussi rongé de l'intérieur par les divisions, incapable de s'entendre sur sa ligne à moins d'un mois des législatives anticipée prévue pour le 8 juin. Le parti travailliste, le Labour, devait dévoiler son programme de gouvernement, le Labour Manifesto, en début de semaine. Mais le document de 43 pages a fuité et s'étalant dès mercredi à la une de plusieurs médias dans une version non définitive. L'affaire a donné l'impression d'un parti sans chef, entouré de rivaux et en pleine improvisation à 4 semaines seulement d'un scrutin clé. Le document a finalement été adopté à l'unanimité par le Bureau national du Labour, jeudi 11 mai. À l'issue de 4 heures de débats tendus, écrit le journaliste Ludovic Lamant dans cet article. Notre manifeste est une offre qui transformera la vie de milliers de personnes et mettra sur pied dès le 8 juin un gouvernement qui travaillera pour le plus grand nombre plutôt que pour quelques-uns seulement, a déclaré Jeremy Corbyn, le leader du Labour à la sortie de la réunion. Si l'on en croit les comptes rendus de la presse britannique, John McDonnell, l'homme de confiance de Corbyn, est le principal auteur de ce manifeste, considéré comme le programme le plus à gauche du Labour. Uber depuis des décennies. Plusieurs membres du cabinet fantôme n'auraient pas été consultés pour la rédaction de ce document. Certains spéculent même sur une fuite orchestrée par Corbyn lui-même pour pouvoir ensuite mettre la défaite sur le compte des saboteurs de sa campagne. Quoi qu'il en soit, conclut le journaliste dans cet article, le document désormais est public. En attendant son chiffrage prévu pour le début de semaine et qui s'annonce délicat, le programme contient une batterie de mesures que le Guardian qualifie de radicales. Alors, cet article se poursuit sur plusieurs lignes. Je vais vous en recommander la lecture. C'est dans le portail indépendant Mediapart.fr. On se tourne vers les colonnes du journal La Presse à présent. Donald Trump cherche un nouveau directeur du FBI. C'est tiré du fil de l'agence France-Presse par le journaliste Yvan Couronne. Donald Trump continuait lundi à chercher un nouveau directeur du FBI après le limogeage la semaine dernière de James Comey. Mais l'opposition démocrate menace de faire obstruction afin d'obtenir la nomination d'un procureur spécial dans l'enquête sur les ingérences russes. Plusieurs noms circulaient dans la presse pour prendre la tête de la police fédérale. Pas moins de 14 personnes sont en liste, selon le journal Politico. Ce week-end, le président américain a dit vouloir décider rapidement. Presque tous sont très connus, a-t-il dit à des journalistes. Très connus, très respectés, très talentueux. Il a dit qu'il était possible que la nomination intervienne avant son départ pour une tournée internationale en fin de semaine. On compte notamment parmi les candidats de la courte liste, indique cet article de l'agence France-Presse, l'actuel directeur par intérim Andrew McCabe, le numéro 2 des sénateurs républicains John Cornyn, le juge new-yorkais Michael Garcia, l'ancienne responsable de la justice Alice Fisher, l'ancienne conseillère de George W. Bush Fran Townsend, l'ancien élu républicain Mike Rogers ou encore Trey Gowdy, ancien président de la commission d'enquête sur les attaque de Benghazi. Vous avez sans doute entendu parler de cette cyberattaque mondiale qui a immobilisé plusieurs institutions un peu partout sur la planète. Je vous lis quelques passages de cet article de West France, ce que l'on sait de la cyberattaque mondiale. Des ordinateurs dans au moins 150 pays ont été touchés depuis vendredi par une attaque informatique sans précédent, mais dont la progression semblait contenue lundi en Europe. Que s'est-il passé, demande West France, de la Russie à l'Espagne et du Mexique au Vietnam, des dizaines de milliers d'ordinateurs, surtout en Europe, ont été infectés depuis vendredi par un logiciel de rançon exploitant une faille dans les systèmes Windows. Une faille divulguée dans des documents piratés de l'Agence de sécurité nationale américaine, la NSA. Le logiciel malveillant, surnommé WannaCry, verrouille les fichiers des utilisateurs pour les forcer à payer une somme d'argent sous forme de monnaie virtuelle Bitcoin, difficile à tracer afin d'en recouvrer l'usage. On appelle ce logiciel pirate rançongiciel, ransomware en anglais. Selon des experts en informatique, le virus fonctionne dans des dizaines de langues, ce qui montre la volonté des pirates de s'en prendre à des réseaux dans le monde entier. Europol, qui estime qu'aucun pays en particulier n'a été visé, a insisté sur la rapidité inédite de la propagation du virus, qui combine pour la première fois les fonctions de logiciel malveillant et de verre informatique. En Extrême-Orient maintenant, toujours dans le fil de l'AFP, la Corée du Nord a testé un nouveau missile d'une portée inédite. La Corée du Nord a affirmé lundi avoir testé avec succès un nouveau type de missile, un engin doté selon les experts d'une portée sans précédent, susceptible d'atteindre les bases américaines du Pacifique. Le Japon et les États-Unis ont demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU qui pourrait se tenir demain, mardi 16 mai. Avec ce tir largement condamné par la communauté internationale, la capitale nord-coréenne Pyongyang a testé dimanche un nouveau modèle de missile balistique stratégique de portée moyenne à longue nommé Hwangsong 12, a rapporté l'agence officielle nord-coréenne KCNA. L'opération, poursuit l'agence, a été personnellement supervisée par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui a étreint les responsables de la recherche balistique en leur disant qu'ils avaient travaillé dur pour réaliser de grandes choses. La Corée du Nord, dont l'objectif revendiqué est d'être en mesure de porter le feu nucléaire sur le sol américain, est déjà sous le coup de multiples sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU. Le tir de dimanche était le deuxième en 15 jours et le premier depuis la prestation de mercredi du nouveau président sud-coréen Moon Jae-in. Ce tir de missile avait pour but d'examiner les caractéristiques d'un nouveau type de missile, selon la Corée du Nord, un missile qui serait capable de transporter une grande et puissante tête nucléaire. Venezuela, dans les colonnes du journal La Presse, c'est tiré de l'agence France Presse. Venezuela, l'opposition bloque les routes pour une 7e semaine de mobilisation. Les opposants au président vénézuélien Nicolas Maduro bloquaient lundi les routes importantes du pays, entamant ainsi leur 7e semaine de protestation marquée par des violences ayant fait 38 morts. L'opération baptisée Grand Sit-in contre la dictature doit durer 12 heures jusqu'à 19 heures en une cinquantaine de points stratégiques du Venezuela, rapporte cet article de l'AFP. L'objectif, ont souligné les manifestants, est de rendre ingouvernable le Venezuela, déjà secoué par une profonde crise politique depuis des mois, qui s'ajoute au marasme économique de ce pays pétrolier ruiné par la chute des cours du brut. Le président socialiste Nicolas Maduro est confronté depuis le 1er avril à une vague de manifestations hostiles et de violences qui ont déjà fait 38 morts et des centaines de blessés. Au moins 155 civils ont été emprisonnés sur ordre de tribunaux militaires, a dénoncé l'ONG Foro Penal. Le président Maduro, qui bénéficie de la loyauté inconditionnelle de l'armée, acteur crucial au Venezuela, accuse ses adversaires de mener une insurrection armée pour favoriser un coup d'État avec le soutien logistique et financier des États-Unis. Le journal Le Temps, c'est un quotidien suisse, nous indique que des ONG en Méditerranée sont accusées de complicité avec les passeurs de migrants. Les organisations humanitaires opérant en Méditerranée sont accusées en Italie de collusion avec les trafiquants d'êtres humains. Ces ONG se défendent d'accusations de magistrats lancées sans preuve et d'attaques d'une partie de la classe politique, écrit le journal Le Temps. Certaines ONG sont depuis des semaines la cible de nombreuses accusations. Les plus violentes sont sans doute celles du procureur de Catane en Sicile. Carmelo Zuccaro dénonce une possible collusion entre opérateurs humanitaires et organisations criminelles libyennes. Certaines ONG pourraient être financées par les trafiquants, détaille-t-il par exemple dans La Repubblica le 27 avril, et ce dans le but de déstabiliser l'économie italienne. Alors, une responsable d'ONG est interviewée dans cet article. « Je suis écœurée », s'emporte Sophie Beau, vice-présidente et cofondatrice de SOS Méditerranée. Il s'agit d'une campagne de discrédit général fondée sur des allégations sans fondement. Elle regrette que son organisation n'ait jamais été contactée par la justice italienne, seulement par le Parlement, où SOS Méditerranée a été entendu jeudi matin par la commission Sengen. L'association internationale dispose d'un bateau, l'Aquarius, en mer depuis 14 mois. Une trentaine de personnes y travaillent. Il peut accueillir ce bateau jusqu'à 500 personnes. « Ces critiques me surprennent, car ce que nous faisons à bord est transparent », confie la responsable. Elle rejette en bloc les accusations de collusion. « Nous sommes financés par des dons privés à hauteur de 98% en 2016 et par des subventions publique, détaille cette responsable. L'Aquarius nous coûte 11 000 euros par jour. Alors, ces accusations, indiquent le journal Le Temps, proviennent de certains procureurs de Sicile, mais aussi du parti d'extrême droite, le mouvement 5 étoiles. Et c'est un article qui se poursuit sur plusieurs paragraphes. C'est dans le journal Le Temps, je vous rappelle le titre, « Des ONG accusées de complicité avec les passeurs en Méditerranée ». Dans le fil de l'agence Reuters, à présent, le choléra a fait au moins 115 morts à Sanaa, au Yémen. L'état d'urgence a été décrété à Sanaa, la capitale du Yémen, contrôlée par les milices chiites houthis, en raison d'une épidémie de choléra qui a fait au moins 115 morts, selon un bilan fourni par communiqué lundi par l'agence de presse yéménite Saba. Le bilan du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, est plus lourd encore à 180 morts, au moins depuis le 27 avril, et 11 000 cas suspect. Le ministère yéménite de la Santé a lancé un appel aux organisations humanitaires et à des associations caritatives afin de l'aider à éviter une catastrophe sans précédent. Et rappelons en passant que l'Arabie Saoudite, un allié de l'OTAN, mène une guerre qui est largement en infraction du droit international avec des bombardements de civils. Une guerre qui est menée au Yémen donc par l'Arabie Saoudite et ses alliés. Dans le portail Mediapart, sous la plume du journaliste Fabien Hoffner, Burkina Faso et Guinée-Bissau s'inquiètent des percées djihadistes. Les groupes djihadistes ont investi la région frontalière du Mali et du Niger, tandis qu'en Guinée-Bissau, les forces de sécurité se disent démunies. Deux ans après la chute de Blaise Compaoré, le procès de l'ancien chef d'État du Burkina Faso et de son gouvernement va de report en report devant la Haute Cour de justice à Ouagadougou. une page va se tourner au moment où une autre s'ouvre, car depuis le départ de Compaoré, le Burkina Faso est passé de l'autocratie paisible à la démocratie assaillie. Nul ne sait quel sera l'épilogue de cette nouvelle ère, dont le prologue est pour le moment comparable à celui du voisin malien. Des groupes djihadistes ont investi la région burkinabé du Sahel, frontalière du Mali et du Niger, après avoir éprouvé les uns après les autres les modes opératoires déjà utilisés au Mali. Enlèvements, attaques, offensives d'ampleur contre les forces de sécurité, menaces contre les enseignants dans les écoles publiques. Signe des temps et des priorités, le premier ministre a ouvert le mois dernier son discours sur la situation de la nation en évoquant le fléau du terrorisme. C'est dans le portail Mediapart.fr. Et on va terminer avec une lettre ouverte qui paraît dans le portail indépendant Ricochet. C'est à l'adresse ricochet.media. Jour de la Nakba. Se rappeler et agir. C'est une lettre ouverte signée par Maha Elmir et Mohamed Amin. La première est étudiante au deuxième cycle en sociologie à l'Université du Québec à Montréal et le second est président de l'Association des étudiants musulmans de l'Université du Québec à Montréal. Il signe une lettre qui porte sur la situation en Israël. Le 15 mai de cette année marque le 69e anniversaire de la Nakba, de l'arabe catastrophe. Nous commémorerons en cette journée, l'exode de plus de 700 000 Palestiniens, Palestiniennes chassés de leurs terres, ainsi que la destruction d'une grande majorité de leurs villages historiques, écrivent-ils. En plus de nous rappeler les événements de 1948, il convient aussi de réfléchir collectivement aux moyens dont nous disposons pour mettre fin aux injustices que vit encore à ce jour le peuple palestinien. C'est sur cette lettre ouverte paraissant dans le portail Ricochet que se referme cette revue de presse internationale pour les 15 et 16 mai. Restez avec nous à l'antenne de votre radio communautaire francophone locale. L'émission Le Débrief se poursuit dans un instant avec la revue de presse nationale. Merci d'être à l'écoute de l'émission Le Débrief des 15 et 16 mai. Autour des nouvelles canadiennes maintenant, on ouvre tout de suite votre revue de presse nationale. On commence avec un sujet brûlant d'actualité, le bois d'œuvre. La taxe a déjà fait monter les prix, nous indique le journal La Presse. C'est signé par le journaliste Charles Côté. Les prix sur le marché américain du bois d'œuvre ont déjà augmenté du même montant que le droit compensateur imposé par l'administration de Donald Trump. Le journaliste a interrogé différents spécialistes, notamment William Giger, un grossiste américain. Pour moi, la taxe est déjà dans le marché, a affirmé à La Presse le négociant en bois William Giger du grossiste américain Sherwood Lumber. Le mois dernier, le département du commerce des États-Unis a imposé des droits compensateurs de près de 20% sur le bois d'œuvre canadien en réponse à une plainte des industriels américains qui accusent le Canada de subventionner son industrie forestière. Cinq grandes entreprises canadiennes se sont vues imposer des tarifs individuels variant de 3 à 24%, rappelle le journaliste Charles Côté. Selon William Giger, qui est interviewé dans cet article, les prix avaient déjà commencé à augmenter il y a 2 mois et ils ont commencé à se stabiliser, voire à diminuer. Les répercussions négatives de la guerre du bois d'œuvre sur la construction résidentielle sont le principal argument d'une délégation de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, qui est à Washington cette semaine, écrit le journaliste Charles Côté. Un peu plus loin, le journaliste poursuit. Le mois prochain, le département du commerce doit annoncer quelle suite il donnera à l'autre plainte portée par la US Lumber Coalition, cette fois concernant la pratique du dumping. Un autre droit compensateur pourrait alors s'ajouter. Selon William Giger, toujours, cette nouvelle bataille du bois d'œuvre, la sixième depuis 35 ans, s'annonce déjà différente de la précédente. Le spécialiste souligne d'abord le fait que les droits compensateurs sont rétroactifs pour la plupart des scieries en cause, et ensuite que les droits doivent être acquittés en argent comptant et non par lettre de crédit. On reste dans les relations commerciales Canada-États-Unis. ALENA, une rencontre Canada-USA est prévue demain mardi 16 mai. C'est dans le fil de l'agence France Presse, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, en charge du difficile dossier de la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, a annoncé dimanche sa rencontre mardi à Washington avec le secrétaire au commerce Wilbur Ross. Après avoir menacé de dénoncer cet accord commercial entre les États-Unis, le Canada et le Mexique en vigueur depuis plus de 20 ans, le président Donald Trump a finalement concédé fin avril sa renégociation. Outre l'ALENA, américains et canadiens ont aussi deux conflits que le président Trump a réactivés ces dernières semaines, rappelle l'agence France-Presse dans cet article, les exportations de bois de construction et de produits laitiers. Et dans le journal La Presse, cette fois à présent, The Story of Us, des sénateurs demandent des comptes à Radio-Canada. C'est signé par Mélanie Marquis et c'est tiré du fil de la presse canadienne. Les regrets exprimés du bout des lèvres par CBC Radio-Canada aux personnes qui se sont senties mal représentées dans la télésérie Canada, The Story of Us, n'ont pas suffi à apaiser le malaise d'un noyau de sénateurs. Sous l'impulsion du sénateur néo-brunswickois René Cormier, plus d'une vingtaine de membres de la Chambre haute ont fait parvenir au grand patron de la Société d'État, Hubert Lacroix, une lettre dans laquelle ils demandent des clarifications. Dans leur missive, ils soutiennent notamment que cette série témoigne trop peu de la présence des Premières Nations et occulte complètement un des événements fondateurs de notre pays, la déportation des Acadiens. Les signataires demandent donc des explications supplémentaires concernant le financement alloué à cette production et aux intentions de CBC Radio-Canada en ce qui a trait à une éventuelle utilisation et distribution du docudrame dans les écoles du pays, musées ou autres institutions. Car il est de la responsabilité du diffuseur public, selon les sénateurs, d'assurer une représentation adéquate de la diversité de notre pays et certaines informations présentes ou absentes dans ce docudrame risquent d'induire en erreur les téléspectateurs sur l'histoire canadienne, ont-ils noté dans leur lettre. La démarche du sénateur Cormier est appuyée par 7 Québécois et 6 Néo-Brunswickois qui siègent au Sénat actuellement. On se tourne vers le journal Le Devoir pour cet article d'Hélène Buzetti, correspondante parlementaire à Ottawa. Trudeau, plus grand voyageur que Harper. Les voyages du premier ministre Trudeau durant sa première année au pouvoir ont engendré davantage de coûts que ceux de son prédécesseur. Au cours de sa première année au pouvoir, le premier ministre s'est rendu plus souvent à l'étranger et a engendré des dépenses de déplacement 56% plus élevées. Selon une compilation effectuée par Affaires mondiales Canada et obtenue par le journal Le Devoir en vertu de la loi sur l'accès à l'information, Justin Trudeau a effectué 13 voyages internationaux entre son arrivée au pouvoir le 4 novembre 2015 et le 4 novembre 2016. Ces voyages ont coûté aux contribuables 6,1 millions de dollars. Stephen Harper, pour sa part, avait effectué 9 sorties du pays pendant sa première année de règne, se terminant le 6 février 2007. Ces pérégrinations avaient coûté 3,9 millions de dollars. La différence de 2,2 millions de dollars représente une hausse de 56%. Toujours dans le journal Le Devoir, le dépotoir nucléaire de Chalk River, une menace pour les Québécois, donc un conflit potentiel entre l'Ontario et le Québec. Dans cet article, on nous indique que le Bloc québécois s'oppose à l'aménagement d'un nouveau dépotoir de déchets nucléaires sur le site des laboratoires de Chalk River. Ça, c'est du côté ontarien, à 1 kilomètre de la rivière des Outaouais qui sépare les deux provinces. Ce projet insensé, selon le Bloc québécois, constitue une grave menace pour l'environnement et les Québécois qui dépendent de l'eau potable de la rivière des Outaouais, selon la chef du parti, Martine Ouellette. Surveillance accrue des pipelines dans les zones inondées. C'est dans le portail de Radio-Canada. Les inondations et les nombreux glissements de terrain enregistrés ces derniers jours soulèvent l'inquiétude des résidents de part et d'autre de la rivière des Outaouais qui appréhendent les conséquences que pourrait avoir une rupture de pipeline sur leur approvisionnement en eau potable. Depuis le début des inondations, rapporte Radio-Canada, près d'une centaine de glissements de terrain ont déjà été enregistrés au bord des cours d'eau dans les régions touchées. Ce sont des secteurs à risque en raison des sols argileux, explique Thomas Blanchet, porte-parole de la Sécurité civile. En cas de rupture d'un pipeline, le déversement d'hydrocarbures dans la rivière des Outaouais pourrait contaminer le fleuve Saint-Laurent, source d'eau potable de près de 3 millions de personnes dans la grande région de Montréal. Le pipeline Transnord, vieux de plus de 60 ans, est celui qui soulève le plus d'inquiétude. Il transporte quotidiennement 170 000 barils de produits raffinés de Montréal à Oakville, en Ontario. Le pipeline est responsable à lui seul d'environ la moitié des incidents survenus au Québec depuis 2009 en raison de déversements et de problèmes de surpression. Retour dans les colonnes du journal La Presse, le harcèlement et l'intimidation encore bien présents à la GRC selon un rapport. C'est dans le fil de la presse canadienne, l'intimidation et le harcèlement en milieu de travail demeurent des problèmes graves et constants au sein de la Gendarmerie royale du Canada et d'importants changements dans la gouvernance de la police fédérale sont nécessaires pour que la situation s'améliore, estime une commission civile. Dans un rapport publié lundi, la commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC reproche à la direction du corps policier de manquer de détermination et de ressources pour régler ces problèmes. Devant la lenteur des modifications, la commission recommande qu'Ottawa instille une dose de gouvernance ou de surveillance civile au sein de la police. La même commission avait formulé en 2013 une série de recommandations en matière d'intimidation et de harcèlement, en ajoutant que des gestes importants devaient être faits rapidement pour remédier aux problèmes qui minent la police fédérale. Une politique sur le harcèlement et le traitement des plaintes avait été mise en place par la GRC en 2014, et le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a plus tard demandé à la commission civile de mesurer les progrès accomplis. Or, la commission conclut lundi que la grande majorité des plaintes soumises après 2014 ont fait état d'abus de pouvoir, de réprimandes en public, de commentaires méprisants, de congés refusés arbitrairement ou de mutations punitives, parfois pendant des années. Il s'agit donc de gestes commis par des superviseurs ou des personnes occupant un poste de gestion à l'encontre de subalternes. Le dysfonctionnement organisationnel de la GRC est bien documenté, dit le rapport, et la présente enquête de la commission a confirmé la persistance des problèmes d'intimidation et de harcèlement au travail. Et on va terminer cette revue de presse nationale avec un article qui paraît dans le journal La Presse sous la plume du journaliste Nicolas Bérubé. Profilage racial au poste frontière du Vermont, point d'interrogation. Refoulée à la frontière américaine, une citoyenne française s'est fait conseiller par le consulat général des États-Unis à Montréal d'éviter les postes frontières du Vermont car des agents y feraient de la discrimination. Une citoyenne française, son mari canadien et deux autres citoyennes canadiennes étaient en route pour une longue fin de semaine de Pâques à Ogunquit dans le Maine le 12 avril dernier. Leur voyage a plutôt pris fin après des heures surréelles et humiliantes de détention au poste frontière de Highgate Springs au Vermont. « Le douanier m'a interrogé en boucle pendant 3 heures », explique la citoyenne française qui désire garder l'anonymat et dont l'histoire a pu être authentifiée par la presse. Cet article indique aussi que le douanier a tenté de faire signer une déclaration erronée à la citoyenne française au poste frontière. Le lendemain, cette citoyenne française s'est rendue au consulat des États-Unis à Montréal pour tenter d'avoir des explications et un employé du consulat lui a carrément suggéré d'éviter de passer par les postes frontières du Vermont. Ici se conclut cette revue de presse nationale pour les 15 et 16 mai. Le débrief vous revient dans quelques secondes avec votre nouvelle francophone du jour. À tout de suite. Les revues de presse internationales et nationales sont bouclées. C'est maintenant le moment de la rubrique Francophonie pour les 15 et 16 mai. Alors, je vous propose aujourd'hui un article qui paraît dans le portail de TFO.org. TFO, c'est la télévision publique francophone de l'Ontario. C'est sous la plume du professeur Rémi Léger, qu'on a déjà interviewé ici au débrief dans le passé. Monsieur Léger est professeur en sciences politiques à l'Université Simon Fraser à Vancouver, SFU. Donc, c'est un article sur la francophonie canadienne qu'il signe. Ça s'intitule « Plaidoyer pour la représentation effective dans la francophonie canadienne ». La Nouvelle-Écosse aura une commission d'études sur la représentation effective, écrit Rémi Léger. On se souviendra qu'en janvier dernier, la Cour d'appel de la province statuait que l'abolition des trois circonscriptions acadiennes historiques ne respectait pas le principe de la représentation effective des minorités. À mon sens, le travail effectué par la commission d'études d'ici le 1er novembre sera d'une importance définitive pour la collectivité acadienne néo-écossaise, mais aussi pour la francophonie canadienne dans son ensemble. La représentation effective est une piste peu explorée en francophonie canadienne, écrit Rémi Léger dans cet article. Notre lexique politique est plutôt dominé par la vitalité linguistique, la complétude institutionnelle ou encore la formule désormais incontournable de la loi sur les langues officielles, favoriser l'épanouissement des minorités et appuyer leur développement. Dans la cause sur l'abolition des circonscriptions acadiennes historiques, la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, la FANE et son avocat, le professeur Michel Doucet, ont fait intervenir ce principe peu exploré de la représentation effective. Dans une décision rendue il y a plus de 25 ans, la Cour suprême du Canada statuait que la représentation effective exige un équilibre entre, d'une part, la parité électorale et, d'autre part, la représentation des groupes en situation minoritaire. En janvier dernier, la Cour d'appel en Nouvelle-Écosse donnait raison à la FANE en statuant que la nouvelle carte électorale enfreint la représentation effective. C'est en réponse à cette décision que le gouvernement néo-écossais créait, il y a 2 semaines, une commission d'études qui vise à réfléchir à la représentation effective de la collectivité acadienne et de la minorité noire. Selon Michel Samson, ministre des Affaires acadiennes et de la francophonie, cette commission d'études dépassera l'examen de la délimitation des circonscriptions électorales et aidera à déterminer les moyens pour les groupes minoritaires de participer activement et d'être représenté dans le processus électoral. À mon sens, poursuit Rémi Léger dans cette tribune, le travail de la commission d'études sera d'une importance définitive pour la francophonie canadienne dans son ensemble. Pourquoi? En premier lieu, parce que la représentation effective est un principe constitutionnel. Cela n'est pas une réflexion théorique qu'un gouvernement pourra rejeter du revers de la main. Tout principe constitutionnel a une certaine pesanteur dans la vie politique canadienne. En définissant les contours et la portée de la représentation effective, la commission d'études contribuera à outiller la collectivité acadienne néo-écossaise, mais aussi les minorités francophones de partout au Canada qui voudraient revendiquer une meilleure représentation politique dans leur province ou au palier fédéral. En deuxième lieu, parce que le travail accompli risque d'orienter les discussions futures. À ma connaissance, la commission d'études créée par le gouvernement néo-écossais est la première en son genre au pays. Son travail permettra donc de préparer le terrain pour des réflexions similaires ailleurs au Canada. En effet, il y aurait lieu de mener la même réflexion pour les Acadiens, les Franco-Ontariens, les Franco-Manitobains, les Francescois, les Franco-Albertains et les Franco-Colombiens. C'est signé par Rémi Léger. Il est professeur en sciences politiques à l'université Simon Fraser, ici en Colombie-Britannique. Donc, vous trouverez cette tribune sur le portail tfo.org, tfo.org, la chaîne publique franco-ontarienne. C'était votre information à thématique francophone pour les 15 et 16 mai dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien. Merci de demeurer à l'écoute de votre radio communautaire francophone locale.
C'est dans ma tête et dans mes veines. Rien ne pourra nous arrêter. La nuit s'achève, on se réveille. Rien ne pourra nous arrêter. Alors,
De retour dans l'émission Le Débrief, on écoutait à l'instant la formation Automate avec une pièce intitulée Pandora. C'est Alexis Gagnon en votre compagnie. L'info se poursuit. C'est le moment de passer aux nouvelles provinciales. On débute tout de suite cette revue de presse de Colombie-Britannique. On va faire un saut dans le journal Métro Colombie-Britannique. Un nouveau dépouillement dans deux comtés. Les autorités électorales de la Colombie-Britannique ont rejeté 4 des 6 demandes de nouveau dépouillement qui lui avaient été formulées. Les résultats étaient contestés dans 5 circonscriptions qui ont vu le gagnant l'emporter par une priorité inférieure à 600 votes, indique cet article de la presse canadienne. 2 des 6 demandes concernent la circonscription de Vancouver Falls Creek, où le libéral Sam Sullivan l'a emporté par 560 voix. Elections BC a accepté une des requêtes et rejeté l'autre. L'autre circonscription où les bulletins seront dépouillés de nouveau est Courtney Comox, qu'a enlevé la néo-démocrate Rana Ray Leonard par seulement 9 voix. Ces nouveaux dépouillements auront lieu du 22 au 24 mai, dans quelques jours. Tout changement, poursuit cet article de la presse canadienne, aura une influence profonde sur les résultats de l'élection britanno-colombienne. Pour l'instant, les libéraux de Christy Clark ne sont qu'à 1 siège de pouvoir former un gouvernement majoritaire. Ils détiennent 43 sièges, 2 de plus que les néo-démocrates de John Horgan. Les Verts d'Andrew Weaver, qui comptent 3 sièges, détiennent pour le moment la balance du pouvoir. Donc c'est à suivre. Rien n'est gagné pour aucune des formations à l'heure actuelle. Ottawa interdira le transport de pétrole dans le nord de la Colombie-Britannique. C'est une nouvelle qui paraît un peu partout dans les médias. Je vous lis quelques lignes d'un blog qui s'appelle Enjeux, énergie et environnement, qui a suivi ce dossier. Après avoir approuvé un projet de pipeline qui augmentera significativement le trafic de pétroliers dans la région de Vancouver, le gouvernement Trudeau a déposé il y a quelques jours un projet de loi qui impose un moratoire sur le transport de pétrole brut dans le nord de la Colombie-Britannique, une législation qui n'affecte pas les projets d'exportation de gaz naturel liquéfié, précise cet article. Le gouvernement Trudeau a déposé au Parlement le projet de loi C-48 qui s'intitule « Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers ». Cette nouvelle loi interdira aux pétroliers qui transportent du pétrole brut de s'arrêter, de charger ou de décharger leur cargaison dans des ports et installations maritimes qui se trouvent dans le nord de la Colombie-Britannique. La zone du moratoire proposé s'étend de la frontière avec l'Alaska vers le sud jusqu'au point situé sur la partie continentale de la Colombie-Britannique adjacente à la pointe nord de l'île de Vancouver. Le premier ministre Justin Trudeau avait promis de présenter une telle mesure de protection côtière au moment de rejeter le projet de pipeline Northern Gateway qui devait permettre d'exporter le pétrole des sables bitumineux de l'Alberta à partir du nord de la Colombie-Britannique. Il faut bien noter, rapporte cet article, que ce moratoire de transport ne concerne toutefois pas le transport d'essence et ne concerne pas non plus les projets d'exportation de gaz naturel liquéfié. Le gouvernement Trudeau a d'ailleurs approuvé en septembre dernier, en 2016, un tel projet, le Pacific Northwest LNG, dont le port d'exportation sera justement situé dans le nord de la province. Alors ça, c'est un bémol important à soulever dans ce contexte. On va se transporter dans les colonnes du journal La Presse. Colombie-Britannique, du fentanyl présent dans 80% des échantillons d'héroïne. C'est sous la plume de la journaliste Ariane Lacourcière. Après avoir analysé plus de 9000 échantillons de drogue au cours des 9 derniers mois au centre d'injection supervisé Insight à Vancouver, des chercheurs ont découvert que 80% de l'héroïne et de la méthamphétamine en cristaux qui est consommée contiennent du fentanyl et 40% des échantillons de cocaïne sont dans la même situation, révèlent les résultats d'une étude publiée ce matin dans le cadre de la 25e conférence internationale sur la réduction des méfaits qui se tient actuellement à Montréal. Selon les chercheurs de l'étude intitulée « Évaluation d'un programme de dépistage du fentanyl d'un site de consommation supervisé à Vancouver au Canada », analyser les drogues en circulation pour déceler la présence du fentanyl pourrait contribuer à sauver des vies et à atténuer la crise de santé publique attribuable à la consommation d'opioïdes et aux surdoses qui en résultent. Le fentanyl, rappelle cet article d'Ariane Lacourcière, est une substance 100 fois plus toxique que la morphine et est de plus en plus utilisée par les trafiquants de drogue pour couper l'héroïne, de la méthamphétamine en cristaux et de la cocaïne. Au Canada, les surdoses liées à la consommation d'opioïdes sont en hausse depuis des mois et le fentanyl est dans la ligne de mire des autorités. En Colombie-Britannique seulement, 922 personnes sont décédées d'une surdose de drogue illégale en 2016, ce qui constitue une hausse de 80% par rapport à 2015. Environ 60% de ces décès étaient liés à la consommation de fentanyl. Le portail britanno-colombien de Radio-Canada nous rapporte qu'un projet pilote pour soutenir les parents immigrants à Whistler est en cours. Une mère de Whistler, en Colombie-Britannique, lance un projet pilote pour aider les parents immigrés et leur permettre de se bâtir un réseau de soutien dans leur communauté. Le programme Parenting Across Cultures sera lancé à l'automne et s'adresse aux parents qui ont des enfants de moins de 2 ans. Andrea Dunn, qui est elle-même immigrante et parent, est à l'origine de cette idée. Son travail comme agente d'établissement au Whistler Multicultural Network, un organisme d'accueil et d'appui aux immigrants, l'a inspiré dans ce projet. J'ai remarqué que lorsque je participais à un programme déjà offert à Whistler, je n'y rencontrais pas beaucoup de mamans immigrantes, même si je sais que ces mamans sont présentes dans la région, a-t-elle expliqué à Radio-Canada. Je rappelle le titre de cet article, un projet pilote pour soutenir les parents immigrants à Whistler. On va se transporter dans les colonnes de la presse anglophone de Colombie-Britannique, si vous le voulez bien. On va commencer avec un article qui paraît dans notre portail indépendant de Taï. If Weaver chooses to ally with BC Liberals, here's why. Donc, les raisons qui pourraient pousser Andrew Weaver, le chef du Parti vert, à former une alliance avec les libéraux de Christy Clark. Il y a 6 raisons qui pourraient inciter le chef du Parti vert à le faire, nous indique le portail de Taï. Premièrement, Andrew Weaver provient d'une circonscription plutôt aisée. Donc, ce sont des gens qui ont un revenu 25% supérieur à la moyenne britanno-colombienne. Et cela influence sa vision économique, nous indique le Taï. Donc, Andrew Weaver est près et proche de la pensée libérale en matière de développement économique. Il est susceptible de se rallier aux libéraux sur certains dossiers économiques, fiscalité aussi. Donc, c'est en substance que ce qu'indique le Taï. Donc ça, c'est une des raisons qui favoriserait un rapprochement entre le parti de Weaver et le parti de Christy Clark. Ensuite, on souligne dans cet article que Andrew Weaver n'a pas beaucoup d'atomes crochus avec le chef du parti néo-démocrate John Horgan. Les deux ne sont pas très compatibles sur le plan tempérament, personnalité. Ils se sont déjà opposés. Ils ont eu des altercations dans le passé. Donc, le courant ne passe pas entre ces deux chefs de parti, Weaver et Horgan. Alors ça, c'est une autre raison qui peut pousser Weaver du côté des libéraux, nous rapporte le Taï dans cet article. Et la troisième raison, c'est tout simplement les chiffres. Les libéraux ont obtenu plus de votes que les néo-démocrates au cours de cette élection. Donc Andrew Weaver peut s'appuyer là-dessus pour se rapprocher des libéraux de Christy Clark. Une quatrième raison qui pourrait brouiller les pistes, c'est la volonté affichée souvent par Andrew Weaver de laisser les 2 autres élus du Parti vert voter selon leurs convictions. Donc, il n'y a pas de ligne de parti imposée au Parti vert de Colombie-Britannique. Les 2 élus qui accompagneront Weaver à l'Assemblée législative de Colombie-Britannique n'auront pas de directive. Ils pourront voter selon leurs convictions, en fonction de leur compréhension des enjeux et de leurs opinions. Alors ça, c'est important de le noter, c'est ce qu'indique le Taï dans cet article. Cinquièmement, cet article du Taï nous dit que les Verts croient qu'ils peuvent convertir les libéraux à leur pensée et à leur vision du développement durable. Ils sont plutôt de l'avis qu'il faut dialoguer et collaborer plutôt que s'opposer et militer. Alors ça, c'est le 5e point qui semble indiquer que les Verts pourraient se diriger vers les libéraux et former une alliance avec eux. Et le point numéro 6, la sixième raison dans cet article, c'est en fait une répétition un petit peu du numéro 2. Les vers n'ont pas digéré certaines des actions passées du NPD de John Organ. Donc, ils ont la mémoire longue, si vous voulez, et croient que le NPD ne s'intéresse pas véritablement au dossier environnemental. Il s'agirait plutôt de déclarations superficielles. Donc, le parti de Weaver est très dubitatif, très sceptique face au NPD et ne croit pas qu'il est véritablement pro-environnement. Donc, vous trouverez cet article dans le portail du TAI, c'est fascinant. « If Weaver chooses to ally with BC Liberals, here's why ». C'est sous la plume de David Beers dans le TAI. Dans les pages éditoriales du Times Colonist, on a un papier intitulé « Vote was a rebuke of Christy Clark ». Donc, le vote britanno-colombien des électeurs de la province est un rejet de Christy Clark. Alors, quoi qu'il en soit, quel que soit le résultat de l'élection avec un gouvernement néo-démocrate ou encore un gouvernement libéral, le Times Colonist croit que l'élection qui vient d'avoir lieu est un rejet du gouvernement de Christy Clark qui gouvernait depuis quelques années. Donc, vous trouverez ça dans les pages éditoriales du Times Colonist. Et on finit avec une nouvelle qui paraît sur le portail vicnews.com. Notre média local Victoria News à l'adresse vicnews.com. C'est sous la plume de la journaliste Ragnar Hagen qui nous informe que le marathon de Victoria cette année sera inscrit dans les célébrations officielles du 150e anniversaire du Canada. Un marathon très spécial qui va avoir lieu en octobre. C'est la 39e édition de cette course et celle-ci s'inscrira, nous informe vicnews.com, dans les célébrations officielles de Canada 150. C'est avec cet article local qu'on boucle le tour d'horizon des nouvelles provinciales. Mon nom est Alexis Gagnon. Vous écoutez l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. On fait une courte pause et au retour, on s'intéresse à la météo des prochains jours. Restez à l'écoute. Vous écoutez l'émission Le Débrief. Merci d'être à l'écoute du 107.9 FM. On va jeter un petit coup d'œil à la météo. On a eu droit à du temps maussade ces derniers jours. Malheureusement, ça pourrait s'arranger. C'est du moins ce que semble indiquer le portail de météo.gc.ca, le portail d'Environnement Canada. Pour ceux qui nous écoutent en fin de journée, lundi 15 mai, on a 9 degrés au mercure et ça va demeurer sensiblement la même température au cours des prochaines heures et cette nuit 8 degrés, cette nuit pluie intermittente. Le soleil pourrait se montrer demain, seulement 30% de probabilité d'averse demain, mardi 16 mai, un mélange soleil-nuages pour cette journée de mardi, dégagé en soirée, donc c'est positif. On pourrait enfin rompre avec cette météo maussade des derniers jours. Mercredi 17 mai, 15 degrés et quelques nuages seulement. Ça demeure également dégagé en soirée. Jeudi, soleil. Vendredi, soleil. Et même pour le week-end, un horizon quand même assez éloigné pour le moment. Environnement Canada nous montre des pictogrammes de soleil avec un maximum pour samedi 20 mai de 20 degrés. Alors, c'est encore loin. On touche du bois. On espère que ça va se concrétiser. Et pour le moment, pour ceux qui nous écoutent en fin de journée lundi, je le disais, on a 9 degrés à l'aéroport de Victoria en fin de journée. Et le dégagement va se faire au cours de la matinée de demain. On aura un mélange soleil-nuage demain 16 mai. Voilà pour la météo. On se laisse en musique aujourd'hui avec Yann Perrault. Au plaisir de se retrouver à l'antenne du 107.9 FM demain, même heure, même fréquence. À bientôt!
Les racoleurs, les râleurs, les les bandits à cravate, le temps qui tend trop à droite, les G.I. Joe, je regarde en haut, j'aime les oiseaux. La fucking une insomnie, la surconsommation, moisir dans le trafic, bouffer du boudin, sentir le monde en panique, les lundis matins, si pas la cupidité, un bon coup de pied au cul, l'avidité, les oignons crus, les demi-dieux, les pseudos experts de mes deux dans la télé, dans la radio, dans les journaux. J'aime les oiseaux. J'aime pas les mauvais sons, les sondages bidons, les trolls qui chient leurs vraies mains, surtout mais qui ne foutent rien. Une fille au pied qui pue, les nids de poules dans les rues, les fois où ça lève pas parce que j'ai trop fait la bomba, les non-dits, les hurlements dans la nuit, un sourire botoxé, une harpe désaccordée, les syncopées tombées dans les petits morts. Les grands impuissants qui se font la guerre au nom des dieux. La preuve que le monde est beau.
Vous écoutez CLS FM, l'unique radio communautaire francophone de la Colombie-Britannique.
Jusqu'au matin, si tu peux prendre. importe le temps qui passe, tu n'y peux rien. 15 ans ou 100 ans, on sourit, oui, ça te va bien. Le passé est dépassé, l'avenir n'est pas pressé, vis maintenant, le temps présent. Vis à vis, avant le paradis. Parler d'amour, de paix, de joie. Sème du bonheur partout autour de toi. T'as le choix du mur, du son, pour écrire ta chanson à ta manière, dans la lumière.